bon? Ok, oups. Ok. Genèse au chapitre 9. Hey, c'est le fun de vous revoir toute la gang. Je veux dire, bon, c'est normal avec les fêtes, on manque des gens, surtout là, 24 et 31. Mais disons qu'il y en a pas mal qui ont été frappés par. Soit, ben, c'était pas mal de la grippe hein, qui courait. Parce que les rhumes, d'habitude, ça nous neutralise pas trop longtemps. Content de tous vous revoir. À ce que je cherche, je pense que. Ah, il y a juste les. C'est vrai. Les Colts. Qui en reste encore un petit peu des malades. Bon, content de vous voir ce matin. On est dans Genèse et on a lu le chapitre au complet. Je veux lire le verset 16 et le verset 17. Et on va voir des vérités vraiment par rapport à ce signe de l'Alliance ce matin. L'arc dans la nuit. Ça, c'est l'arc-en-ciel, OK? Mais l'arc dans les nuages, OK? Dans la nuit. Ça dit au verset 16, « L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » On va prier. Comme on te remercie, Seigneur, de ce qu'on a ce privilège d'avoir ta parole entre les mains, d'être unis, ton peuple, ici, ensemble. Tout ça est saint parce que c'est de toi et c'est beau et on s'en réjouit. Seigneur, on dépend de toi, alors on te demande que tu prennes ces moments et que tu les utilises pour toi, Seigneur, pour tes fins, pour tes plans bienveillants. Seigneur, dispose-nous. On vient humblement à toi. Brise toute résistance, tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et amène-les captifs à l'obéissance de Christ. Seigneur, on s'en remet à toi parce que notre chair est facilement dans le chemin, mais c'est l'Esprit qui vivifie, que vraiment ton Esprit dirige ce temps dans ta parole bénie. Saisisse nos cœurs, nous dispose entièrement à toi, non seulement maintenant, mais pour la suite des choses, pour le reste de cette semaine. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Le signe ici de l'alliance noachique, ça fait un gros mot un peu bizarre, mais de l'alliance avec Noah, nous pointe à Jésus de façon bien inouïe, parce que c'est un arc. Hey, les enfants, t'as-tu vu, Charles? Pis... Là, je vais pas essayer de tirer personne, faites-vous en pas, là. Mais l'arc, dans la nuit, nous pointe au fait que Dieu, l'arc, il est comme ça, hein? L'arc dans la nuit, il est comme ça. Il est pas comme ça, il est comme ça. L'arc, ça nous rappelle la guerre, ça nous montre que ce signe, qui est un signe de paix, jusqu'à ce que l'arc de guerre est pointé vers le ciel. Ça nous pointe au fait que c'était un temps de paix jusqu'à ce que le jugement, la guerre spirituelle qui déjà faisait rage, soit était dirigée vers le ciel, c'est-à-dire Jésus, le Fils unique, qui allait venir pour prendre le jugement, pour prendre la punition du péché, la colère de Dieu. C'est un signe dans la nuit qui va plus que juste nous dire la paix sur terre. Ça nous annonce l'œuvre de Christ à l'avance. C'est pour ça que je l'ai amené de même. Ça nous fait penser, c'est tiré vers le ciel. C'est comme si ça nous annonce le jugement à venir. Et le jugement allait tomber sur le Fils envoyé du ciel. Et c'est vraiment puissant. Et on le voit souvent parce qu'on est souvent égocentrique. On pense, ah, c'est la fin du livre. Ouf, on est content, ça passe plus. Mais ce n'était qu'un épisode. Et c'était une parenthèse où est-ce qu'on se rappelle avec ça que le Père a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour tous ceux qui croient. Et c'est ainsi que les croyants en Jésus-Christ, en celui que Dieu a envoyé, sont délivrés de la malédiction du péché et de la mort. C'est l'histoire rédemptrice. Puis Ça, c'est l'arc dans la nuée, mais si on continue un peu les parallèles, c'est quoi qui est arrivé durant le temps du déluge? J'avais une arche. Et là, je ne dis pas arc, mais je dis arche. L'arche est aussi un signe de l'alliance, mais maintenant avec les enfants de Dieu, où est-ce que l'arche est un type de Christ pour les croyants qui y rentrent, qui sont protégés du jugement. Et on voit que les croyants peuvent entrer dans la nouvelle alliance initiée par Jésus pour contrecarrer la malédiction du péché. Je vais simplement vous amener ce matin des signes, des illustrations de l'alliance de Dieu. L'une universelle avec l'ensemble de l'humanité, l'arc-en-ciel. L'autre spécifique pour les croyants, parce que l'arche est vraiment un type de Jésus qui est le refuge de ceux qui se confient en lui contre le jugement de Dieu. Mais tout ça ce matin, c'est pour vous dire que Dieu donne un sens, une signification à tout ce qu'il fait. Dieu agit pas juste comme ça, au hasard, à là-bas comme je te pousse, mais je dirais que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les alliances qu'il fait avec les hommes. Ça, quand on étudie les alliances, on voit tout le temps qu'il y a un sens qui est donné, et ce sens-là, la signification de l'alliance, du signe de l'alliance, nous pointe systématiquement à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la substance même de cette alliance. Écoutez, Ésaïe 42:6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. » Jésus, c'est lui le moyen par lequel Dieu établit son alliance. Écoutez aussi comment Jésus est le médiateur de l'alliance. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, ça part de Jésus encore, le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, Jésus est la substance de l'alliance, il est le médiateur de l'alliance, il est aussi l'accomplissement de l'alliance, comme l'a prophétisé Zacharie dans Luc 1. Comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes, ici ça parle de l'Éternel qui avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Donc Jésus est la substance, le médiateur, l'accomplissement et même la confirmation de l'alliance. Voici ce que je veux dire, c'est Galates 3:17 que je vous lis. Un testament, une alliance, que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. Autrement dit, l'alliance de Dieu ne dépendait pas de la loi, du fait qu'on observe ou non la loi. C'était Dieu lui-même qui l'a gardé, qui l'a confirmé. Et tout ça nous amène complètement et en tout point à voir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai pas le temps de vous expliquer ça parce qu'on considère dans le mois de janvier tout le concept de l'alliance. Et aujourd'hui, on va considérer vraiment le signe de l'alliance en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, en parlant aux leaders de son peuple, a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Puis là, il leur dit, bien, vous venez pas à moi pour avoir la vie. Mais ce sont elles qui, les Écritures, rendent témoignage de Christ. C'est ça que je vous souligne ce matin. Et spécialement dans la question de l'alliance. Et pourquoi les Écritures pointent à Christ? Parce que Christ est l'accomplissement de tout le plan rédempteur, de tout ce qui avait été annoncé. Le péché est venu, puis en Jésus-Christ est la rédemption et l'accomplissement de tout ce qui est de restaurer, de ramener la vie là où il y a la mort, afin que tous viennent à Christ. Et c'est pour ça que Jésus, de son vivant, avant d'aller à la croix, a dit deux paroles extraordinaires dans Jean 12, d'abord au verset 24. « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus, en mourant, en acceptant de mourir, emmené beaucoup de gens dans la gloire. Je vais vous le lire dans un instant, mais aussi il a dit dans Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand je vais, il va aller sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » Écoutez aussi, dans ce sens-là, Hébreux 2, 10, ça, si vous ne l'avez pas appris, je vous encourage à l'apprendre par cœur. « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Jésus, son œuvre, à cause qu'il a accepté de mourir, il a amené beaucoup de nous, les croyants, les enfants de Dieu, au salut, à la gloire. Et c'est ça toute l'idée de la rédemption, c'est ce qui est signifié dans les alliances que Dieu a faites avec l'humanité. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux grandes. L'ancienne et la nouvelle. Et même dans l'ancienne, il y avait des signes qui étaient donnés qui pointaient encore à Jésus-Christ, l'accomplissement de la nouvelle alliance. Par exemple, saviez-vous que, je vous lis Josué 5, 9, et c'est toujours en introduction là, sur le concept d'alliance. « L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, au lieu, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. » Jusqu'à ce jour. Gilgal, ça veut dire rouler. Dieu, avant de les faire entrer en ta promesse, il dit, vous devez être circoncis. C'est un signe de l'alliance. La circoncision était le signe de l'ancienne alliance, mais ça nous pointait à Christ qui allait ôter le péché du monde. Ici, c'était de façon figurée avec la circoncision dans Josué 5. Mais écoutez, c'est quoi, dans le fond, l'accomplissement qu'on voit dans Ésaïe 53? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est comme ça que Dieu a roulé l'opprobre du péché. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, on voit en tout point comment Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Et ici, dans Genèse 9, et j'ai presque terminé mon introduction, remarquez que l'alliance, elle a la particularité d'être faite avec toute créature, toute l'humanité entière. Donc, ça nous pointe à l'universalité de l'offre de la grâce salvatrice en Jésus-Christ. On comprend que l'arc-en-ciel, donc, est une image de la grâce commune, que Dieu offre le salut à quiconque croit en Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de la grâce salvatrice de ceux qui reçoivent le salut? Y a-t-il un signe, tu as une alliance spécifique là-dessus? Ben c'est ça, la nouvelle alliance. Jésus, hein, il dit ceci, et le sang de la nouvelle alliance, si vous êtes racheté par le sang de Jésus, vous bénéficiez de la grâce salvatrice, pas juste de celle que tout le monde a, que Dieu fait briller, son soleil fait pleuvoir autant sur les méchants que les bons, mais aussi si vous êtes un enfant de Dieu par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, vous bénéficiez de la grâce du salut qui est en Jésus. Et c'est ce qu'on va considérer ensemble ce matin, avec deux sens fondamentaux du signe de l'alliance. Mais là, on y va avec le signe de l'arc-en-ciel, ok? Parce que on va considérer ce que ça veut dire spécialement pour les enfants de Dieu, ok? D'abord, le signe de l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance, ici, dans Genèse 9, c'est le signe d'une nouvelle autorité. Le signe d'une nouvelle autorité. S'il y a quelque chose qui a été démontré puis prouvé par le déluge, c'est lorsque l'homme est sous sa propre autorité, ça donne l'autodestruction et le chaos, n'est-ce pas? Ça va pas bien. Quand l'homme est livré à lui-même, c'est la débandade, la destruction. Or, et là je vais amener qu'on parle d'autorité. On va parler quelques instants d'autorité. Pourquoi le concept même d'autorité est répugnant, peut-être fort un peu, et repoussant, disons, à la personne, à l'homme, puis là, l'homme, l'humain, là. ou je dirais pour le moi. Pourquoi c'est repoussant quand on parle d'autorité? Pourquoi c'est pas un concept qu'on aime? Tu as vu que c'était pas comme ça dans le jardin d'Éden avant la chute. Ça a changé après la chute. Mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça repoussé par le concept d'autorité? Ben parce que l'autorité implique l'exercice du pouvoir d'une personne sur une autre personne. Et dans le domaine des relations humaines, même dans les situations idéales, tu sais, dans une famille qui s'aime, un couple qui s'aime, des fois des bonnes relations de travail dans une église comme la nôtre, okay, même quand c'est des bonnes situations, il y a tout un problème avec l'exercice de l'autorité à cause du péché, du diable, puis de la chair. Ça complique tout le temps les choses, ok? On est plus dans le monde idéal d'Éden. Donc, l'exercice de l'autorité, c'est tout le temps quelque chose de problématique à cause de ces trois éléments-là. Ça veut dire que je peux pas être en relation de proximité avec quelqu'un, de grandir dans la grâce de Dieu avec les autres que Dieu a placés autour de moi. Je peux pas grandir, et là écoutez bien, je veux vraiment me faire comprendre ici, si je ne renonce pas à mon pouvoir, à mon autorité sur les autres de la façon que l'humain l'entend. Okay? Parce que là on va définir c'est quoi vraiment la vraie autorité, parce que c'est ça. La nouvelle alliance, c'est le signe d'une nouvelle autorité. Mais si on fait ça à l'ancienne, là, OK, puis est-ce qu'on dit, là, je te dis quoi faire, puis t'as rien à dire, OK, si on ne prend l'autorité que brute, je te fais faire quelque chose. Quand même, c'est ta compte. C'est ça l'idée de l'autorité. Tu dois faire ça parce que je te le dis. Je te fais faire quelque chose. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça, là. J'ai pas le goût de faire ce que tu me fais faire. Comprenez-vous? Donc là, si j'ai ça, là, dans mes relations, il y a des frictions. Et c'est là que vient toute l'importance du consentement, d'être d'accord. Parce que, savez-vous quoi? Dieu a instauré les autorités, puis l'autorité, c'est bon. Le problème, c'est pas l'autorité en tant que telle, c'est le péché, c'est la chair, c'est le diable. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enveloppé ces structures d'autorité dans l'amour. Regardez un couple, un homme, une femme, une famille. Puis regardez comment Christ est l'Église. Christ est le chef de l'Église. Mais il aime l'Église. Donc, c'est pas une autorité, c'est pas une autorité comme le monde l'entend, non. C'est une nouvelle autorité bienveillante à la lumière de la grâce rédemptrice. Ça change complètement tout. Parce que pour vraiment aimer, il doit y avoir la liberté. On doit avoir la liberté de choisir si on veut ou non. C'est ça l'idée de l'autorité. Est-ce que elle est exercée dans la liberté? Autrement dit, il n'y a pas de vrai amour sans liberté. C'est pour ça que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu ne nous a pas fait comme des robots où est-ce qu'il nous oblige à l'aimer. Dieu a fait le signe dans la nuit où est-ce qu'il dit « Tout le monde, je vous fais grâce, il ne va plus avoir le déluge. » Puis ça pointe à Christ qui allait recevoir le jugement. Puis encore là, il ne nous force pas à croire à son Fils. On doit, par notre foi personnelle, placer notre confiance dans Jésus. Et donc, il y a toute cette idée-là de l'amour qui est volontaire. Donc, ça veut dire que la nouvelle autorité qui est illustré ici dans le signe de l'Alliance, c'est à comprendre dans le sens de l'autorité bienveillante de Dieu. Par opposition aux autorités malveillantes, inappropriées, malhabiles qu'on a connues dans notre vie. Puis tout le monde, OK? Il n'y a pas d'autorité humaine parfaite. La seule bonne autorité bienveillante en tout temps, c'est celle de Dieu. Là, j'amène un point important pour beaucoup ici, en fait, pour tout le monde ici. Nous projetons, et nous avons projeté aussi dans le passé, sur Dieu et les autorités dans notre vie, donc Dieu l'autorité suprême, puis les autres autorités qu'on a dans notre vie, on projette sur Dieu les différentes figures d'autorité qu'on a eues, les blessures qu'on a eues par ces figures d'autorité, puis on s'imagine que Dieu est de même. C'est la tendance humaine. On a été blessé par des autorités, on voit Dieu comme quelqu'un qui potentiellement va nous blesser. C'est comme ça qu'on pense, c'est c'est un mécanisme humain comme par défaut. C'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, parce que ces pensées doivent être amenées captives à l'obéissance de Christ. C'est des images erronées. Si j'imagine que Dieu est comme ceux qui, dans ma vie, ont pas bien exercé leur autorité, ben j'ai pas la bonne image de Dieu. Parce que Dieu est le bon berger, il est bienveillant, il est juste, il est saint, il est vrai, mais c'est le seul qui est bon, qui a une autorité toujours et constamment bienveillante. Et donc, Dieu est la seule autorité qui est digne d'une pleine, d'une totale confiance, d'une totale soumission. Et me soumettre à cette autorité, c'est la seule façon de vraiment être libre et de vraiment pouvoir aimer en retour. Là-dessus, on parle de nouvelle alliance. Savez-vous un point fondamental des fois qu'on passe à côté quand on parle de la nouvelle alliance? Jésus a dit une parole que des fois on pense comme un synonyme d'une autre parole qui était dite avant. Mais quand Jésus, dans Jean 13, a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est pas la même chose que lorsque un docteur de la loi est venu auprès de lui dans Matthieu 22, puis que, il y avait la question sur les deux plus grands commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est pas pareil. C'est un nouveau commandement dans le sens que, tu sais, l'amour, là, ça a été de tout temps. Okay, Dieu est amour, puis il y a toujours eu l'amour autant dans l'Ancien Testament, mais ici, ce qu'on voit de nouveau avec la nouvelle alliance, c'est que Jésus dit « Je suis la mesure de cet amour, comme moi je vous ai aimé. » Puis ça, ça nous pointe à la croix, ça nous pointe à ce qu'il a fait. Là, il dit « Maintenant, vous savez, c'est quoi le modèle suprême de l'amour? C'est moi, c'est ma personne, c'est mon œuvre. » Ça, c'était pas dans l'Ancienne Alliance parce que Jésus n'était pas encore venu. Puis on s'entend, là, Dieu montrait son amour de plein de façons là, dans l'Ancien Testament. Là. Dieu est amour. Il n'y a pas comme un Dieu de l'Ancien Testament qui n'avait pas d'amour, puis un Dieu. Non, non, il y a un seul Dieu, là, puis il ne change pas. Mais la révélation de son amour, la plénitude de cette révélation-là, elle est en Jésus-Christ, dans sa personne et dans son œuvre. Ça, c'est fondamental à comprendre. Pourquoi? Parce que dans Jean 13, quand Jésus dit comme je vous ai aimé, il se place comme étant la mesure de l'amour qu'il nous demande d'exercer. Et mieux encore, l'amour qu'il nous a donné, hein, parce que ça nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ici, je parle des enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'essayer d'aimer plus fort, vous avez déjà tout l'amour dont vous avez besoin, c'est l'amour divin. Vous l'avez dans toute sa plénitude par le Saint-Esprit qui est en vous. OK? Bien, cet amour que Dieu nous a donné, on est simplement appelé à le vivre, à le transmettre, ou pour le mettre dans les mots de Galates 5:22, en emporter le fruit. Parce que c'est tellement important que ça, quand ça parle du fruit de l'esprit, c'est quoi la prééminence qui est donnée au fruit de l'esprit? C'est d'abord l'amour. Parce que tout est accompli à travers l'amour. Comme Christ est venu accomplir la loi, dans l'amour, Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, et donc c'est dans son amour que Dieu a tout accompli. Maintenant, pour terminer sur ce point-là, sur le signe de la nouvelle autorité, tout comme l'arc a été donné par Dieu de son autorité, de son propre chef, pour nous, nous en sommes les bénéficiaires, ben, c'est comme ça aussi pour l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui le donne pour qu'on en bénéficie. Autrement dit, je n'ai pas besoin de faire de quoi pour que Dieu m'aime. J'ai juste besoin d'accepter l'amour qu'il me donne. N'est-ce pas comme ça qu'on a été sauvés? On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas faire quelque chose pour que Dieu nous aime pour qu'il finisse par nous sauver. Non, on accepte l'amour que Dieu nous a déjà complètement démontré en Jésus-Christ. On l'accepte pour nous-mêmes. Merci Seigneur. Mais c'est pareil pour un enfant de Dieu. Et ça, mes amis, c'est important parce que il y a une philosophie dans le monde et aussi dans le monde chrétien qui dit que ben, c'est une fausse philosophie. Si je veux aimer, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Non, Dieu m'a déjà aimé. Tout l'amour dont j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin pour aimer, je l'ai en Jésus-Christ. Et peut-être que je peux comprendre quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai vécu des choses dures, puis accepter le pardon de Dieu. » Tu sais, des fois, on a vécu des choses dures, puis on a de la misère. Des fois, on est dur avec nous-mêmes, puis je peux comprendre que là, ça va être un obstacle dans mes relations avec les autres, mais c'est pas l'idée que je veux m'aimer moi-même en premier, c'est que j'accepte l'amour que Dieu a pour moi. Quand je suis sécure dans cet amour-là, j'en déborde, je peux le partager. Ce que je reçois, je peux le donner aux autres. Et ça m'amène au deuxième sens du signe de l'Alliance. Non seulement c'est le signe de la nouvelle autorité, mais c'est aussi le signe d'une nouvelle source. Une nouvelle source. L'arc, l'arc-en-ciel, l'arc dans la nue, ne prend pas sa source en l'homme. Bon, là, des gens vont dire, ah, physiquement, c'est un phénomène physique. Oui, justement, avant le déluge, il n'y en avait pas d'arc parce qu'il n'y avait pas de pluie. OK? Fait que Dieu l'a donné parce que c'est quelque chose qui n'était pas là avant. Puis il dit, tu sais, fait que, effectivement, c'est une loi que Dieu a établie avec les gouttelettes d'eau et tout ça. Puis c'est comme ça. Quand il pleut, puis c'est le signe que Dieu a donné parce que c'est rattaché à ce par quoi Dieu a jugé, l'eau qui tombe du ciel. Ben comme ça, maintenant, ça nous rappelle la grâce de Dieu. Et donc, ça ne prend pas source en l'homme, c'est Dieu qui a donné ce signe-là, de l'arc-en-ciel, et ça a été donné par Dieu, c'est gardé par lui, comme le signe qu'il fait du bien et qu'il garde sa bonté envers l'humanité, sur lequel avant il a déversé sa colère, le jugement du déluge. Mais comme je l'ai dit, cette colère qu'il retient jusqu'à ce qu'il la déverse sur le Fils. C'est ça qu'on voit, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui nous pointe à la croix, qui nous pointe au jugement qui est tombé sur le Fils. Et Jésus, c'est lui l'accomplissement parfait de la réconciliation, de la justice et de l'amour de Dieu. Et on a là une différence fondamentale entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, toujours illustrée par notre arc-en-ciel ici, parce que ça nous montre que la nouvelle alliance est basée sur une nouvelle source de vie. L'ancienne alliance, c'était quoi? Ça se résume en « Celui qui fait ces choses vivra par elles ». C'était ça, l'ancienne alliance. OK, allez-y, là, fort, là, gardez la loi. Puis c'était un ministère de condamnation. Le but, c'était de nous montrer qu'on ne pouvait pas justement faire ces choses puis vivre par elles. OK? On ne peut pas avoir la vie de nous-mêmes, on doit recevoir la vie de Dieu. On n'est pas la source de notre rédemption, on reçoit la rédemption par Dieu. Et donc, ce que l'ancienne alliance nous prouve, c'est que le moi, la chair, va toujours échouer. C'est ça le but de l'ancienne alliance, c'est montrer l'échec humain. Pour que nous puissions mettre notre confiance exclusivement et totalement en Dieu. Et c'est pour ça que ça dit dans Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Lorsqu'on se confie en Dieu, dans sa grâce, dans son œuvre accomplie, on a la vraie paix. Pourquoi? Parce qu'on ne dépend plus de nous-mêmes, on dépend de celui qui est notre source de vie. On en parle de tellement de façons ici. La vie, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de bien et de mal. J'ai-tu fait le bien que je suis posé? J'ai-tu évité le mal que je ne suis pas supposé de faire? Ou est-ce que j'ai choisi la vie? Si je choisis la vie, je choisis de dépendre de Dieu qui me donne la grâce pour marcher avec lui puis porter du fruit pour sa gloire. Donc, la foi est fondamentale. Quand on parle d'une nouvelle, on a parlé d'une nouvelle autorité en question de l'amour, bien, la nouvelle source est rattachée à la question de la foi parce que la foi, c'est ce qui nous rattache à la source. Dieu est la source d'eau vive. Mais qu'est-ce que ça dit? Ce matin, on a prié, c'est sorti dans le temps de prière. J'ai un de mes deux frères, je ne me rappelle plus chez lequel, mais que le peuple d'Israël dans Jérémie se faisait dire « Hey, vous m'avez abandonné, moi qui ai la source d'eau vive, pour vous creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Mais c'est quoi le problème? Ils ne se confiaient pas en Dieu. Ils se confiaient dans, bon, c'était des idoles, toutes sortes de choses, mais c'était des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, c'est une question de confiance. Ils ne se confiaient pas dans l'Éternel qui est la source d'eau vive. Et c'est tellement important, la question de la foi, que Dieu prend soin de notre foi. Savez-vous comment Dieu prend soin de notre foi? Je ne sais pas si c'est le fun, là, mais il l'éprouve. Il permet à Satan de nous cribler comme le froment. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre et compagnie, là, la compagnie apostolique, avant qu'il aille à la croix? Il dit, Pierre, Satan vous a... Il parlait à Pierre, mais il parlait de toute la gang avec lui. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est quoi? Ce qui est impliqué, c'est que Dieu a dit, oui, OK, tu peux les cribler comme le froment. Mais il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Dieu éprouve notre foi pour la purifier, pour la fortifier, pour que notre dépendance ne soit pas de aucunement de notre chair, de notre capacité, comme notre cher Pierre nous l'illustre si bien, hein, lui qui était plein de bonnes intentions. Il épure la foi pour qu'elle soit exclusivement rattachée à la source de vie, à Dieu qui est le seul qui est digne de toute notre confiance. C'est ça que Dieu fait avec notre foi. Il s'assure qu'elle est à lui exclusivement, que notre foi, notre confiance repose en lui et en lui seul. Pas Jésus plus, pas un petit peu. Comment qu'on est sauvé? On est sauvé avec 99% de Jésus puis 1% des œuvres. Non, on est 100% de Jésus. Mais de la même manière, dans notre vie chrétienne, Dieu éprouve notre foi pour qu'on mette notre confiance 100% en lui. Parce que on a facilement tendance des fois à se confier un petit peu dans la chair. Est-ce que la chair, elle sert à quelque chose? Elle sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est lui notre source de vie. Dieu, le Saint-Esprit, qui habite en nous. D'où la bénédiction de l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, que cette épreuve de la foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est bon d'être éprouvé. D'ailleurs, si quelque chose n'est pas éprouvé, il n'est pas solide, il ne passe pas le test. La foi qui est éprouvée devient précieuse. Comme l'or qui est épuré dans un creuset, il en ressort les scories, les impuretés, puis ça fait un or pur. Ben, c'est ça que Dieu fait avec notre foi. On va appliquer ça, ce que ça veut dire. Dans votre vie, là, avec le problème que vous avez, là, ou les problèmes, peut-être que c'est au pluriel que ça se conjugue, la solution là, à vos problèmes, c'est pas de trouver de la solution. Savez-vous ça? La solution, c'est pas de trouver la solution. C'est d'expérimenter la vie au milieu de la mort. Parce que quand vous avez des problèmes, là, c'est des problèmes de mort. On est dans un monde où la mort se décline en toutes sortes de façons. La mort relationnelle. La mort, tu sais, de la souffrance, des fois, il y a des souffrances physiques. C'est la grande malédiction de la chute. La mort se répand à tous les hommes, mais de plein de façons. Physiquement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement, elle se répand partout. OK? Puis, la solution à la mort, c'est pas d'essayer de trouver une façon de remédier à la misère qu'elle me donne. C'est dans cette mort de trouver la vie. C'est là qu'on expérimente le surnaturel. Dieu permet que la mort agisse afin que sa vie agisse en nous, à travers nous. Quand on comprend ça, et comprenez bien, là, dans notre vie, là, l'œuvre que Dieu fait dans notre vie est d'abord et avant tout spirituelle. C'est pour ça que ça nous parle dans 2 Corinthiens que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles. Ce n'est pas avec des moyens humains qu'on combat, mais les armes avec lesquelles on combat sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu veut nous aligner avec cette réalité spirituelle. Comment qu'il fait? Et là, c'est le point douloureux de mon message. Dieu permet qu'on échoue dans tous les aspects de notre vie afin que lui puisse nous conquérir. Je répète cette phrase. Dieu permet que nous échouons dans les aspects de notre vie, là, ce qui est à nous, ce qu'on est habitué, ce qu'on s'approprie. Dieu nous fait la grâce d'échouer dans ces choses pour que lui puisse nous conquérir. C'est pour ça que j'ai dit la solution, c'est pas de trouver la solution. La solution, c'est de trouver la vie au milieu même de la mort. Dieu nous éprouve avec des choses qui... On sent la lourdeur, la laideur de la mort parce que Dieu veut nous conquérir par sa vie. Il veut nous faire expérimenter sa victoire. C'est ça le sens fondamental de la nouvelle source que nous avons en Jésus-Christ, une nouvelle source de vie. Autrement dit, dans le domaine spirituel, là, perdre, c'est gagner. C'est, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Que ceux qui acceptent de perdre leur vie vont la gagner. Puis lorsqu'on meurt, c'est là qu'on vit. La vie chrétienne, là, ça ne fait pas de sens. Pour le dire autrement, la vie chrétienne, c'est fondamentalement paradoxal. C'est pas supposé marcher humainement. Ça ne marche pas avec les équations de la logique humaine. Ça n'arrive pas à la fin. Là. Puis c'est voulu par Dieu pour qu'on ne s'appuie pas sur notre sagesse, mais sur lui, sur Christ qui est notre sagesse. Et c'est ça, la beauté de la vie chrétienne, mais c'est ça aussi la pilule qui est dure à avaler. Mais lorsqu'on l'accepte, au lieu d'être déprimé, au lieu d'être défaite, au lieu d'être découragé face à l'échec, parce qu'on expérimente tous l'échec, puis des fois, les échecs du passé qui nous pèsent, puis des fois, où est-ce qu'on traîne des remords, puis de la culpabilité, au lieu d'être déprimé, défaite, découragé par ces choses, on peut se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion que Dieu nous donne de le rencontrer. Lui, le briseur. C'est un titre du Messie. Le briseur. The Breaker. Les gars, j'aime ça en anglais, ça dit The Breaker. Excuse-moi, comme tu dis la lutte WWF, là. Mais c'est un titre messianique. Pourquoi? Parce que comme avec le vase du potier, il a brisé le premier vase, puis on en a refait un autre, ben Jésus, il brise nos tendances charnelles, il brise la puissance du péché, et il l'a fait d'ailleurs, il brise les choses qui nous détruisent pour refaire. Puis l'épreuve, la souffrance, les difficultés, c'est Dieu qui nous amène à vivre ces choses. Et donc, l'Esprit qui nous enseigne toute chose, en passant, il y a un verset des fois que moi j'ai déjà compris. Vous savez, moi j'ai des nouvelles lunettes, là. J'ai des lunettes. Comment tu les appelais, Pascal? Non, les lunettes de Dieu, c'est comme ça que t'es. Où est-ce que quand on apprend à voir les choses à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ, on voit toutes les choses différentes. Puis moi, là, souvent, j'ai vu 1 Jean 2,27 comme OK, je vais comprendre ma Bible mieux. OK, je vous le lis, là, puis je vais vous dire après comment je le comprends maintenant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ça parle ici aux enfants de Dieu, on est scellés par le Saint-Esprit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. D'ailleurs, c'est un signe de la nouvelle alliance. Hein? Plus personne ne va être enseigné, on va être enseigné directement de Dieu. Mais comme son onction nous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Moi, j'ai compris ce verset-là souvent, je dirais de façon restrictive à comprendre les Écritures. Puis certainement, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Mais c'est ce même Saint-Esprit dans le quotidien, dans le vécu, qui nous rappelle les Écritures, puis qui nous donne le sens à ce qu'on vit, à la souffrance, puis qui nous aide, qui jette la lumière sur ce qu'on vit, puis qui nous fait apprécier l'œuvre de Dieu dans ce qu'on vit, qui nous rappelle que Dieu est celui qui transforme le mal en bien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vit dans ses enfants, qui nous enseigne ça. Puis effectivement, quand on ouvre la Bible, ça nous parle, ça nous le rappelle, mais c'est plus que ça. C'est dans notre milieu de travail. C'est lorsque on est dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, c'est dans le feu de l'action. C'est pas juste assis dans notre divan le matin en lisant notre Bible. C'est constamment. C'est lui qui nous enseigne, qui nous dirige dans toute la vérité. Maintenant, et je termine avec ça. Un conseil que j'ai effleuré dans le dernier message, puis je veux un peu ici, si vous voulez, boucler la boucle par rapport à ça. Par rapport aux deux points du message qui sont bien simples, hein, le signe de l'Alliance nous montre que c'est le signe d'une nouvelle autorité et d'une nouvelle source. Ben, c'est quoi notre responsabilité face à l'autorité de Dieu, face au fait que Dieu est notre source de vie, notre source de grâce? Notre responsabilité, hey, je l'aime cette phrase-là, c'est une petite phrase catchy, là. Notre responsabilité est de répondre à son habileté. Notre responsabilité, c'est nous de répondre à son habileté. C'est ça tout le concept de la Nouvelle Alliance. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit? On a tout pleinement en Jésus-Christ. On est déjà là, béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok, demandez pas plus à Dieu, vous avez déjà tout. Ok, tout pleinement en lui. Notre responsabilité, c'est de répondre à ça, à ce que Dieu nous a déjà donné. C'est là que la foi est tellement importante, vitale. Est-ce que j'ajoute foi à ce que Dieu dit sur moi, dit sur ce qu'il a fait de moi? Et là-dessus, il y a un verset qui m'a parlé cette semaine, puis je vous le partage. Dans notre bien-aimé prophète Ésaïe, au chapitre 3, verset 1, ça dit: Seigneur éternel, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le Seigneur, c'est bon, ils disent, ah, mais oui, mais dans Ésaïe, il les jugeait, il n'était pas content parce qu'il était idolâtre. Mais on s'entend là. Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève. Et ici, ça dit dans Ésaïe qu'il enlève tout appui et toute ressource. Et j'aimerais vous avancer ce matin que c'est dans sa grâce que Dieu nous enlève tout appui et toute ressource. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est une grâce que Dieu nous enlève nos appuis, nos ressources. Pour que nous puissions être convaincus, qu'on puisse voir la vanité de nos propres appuis, de nos propres ressources, et même, je dirais, leur dangerosité, leur puissance destructrice. Parce que la voie de la chair, la voie de la confiance en nous-mêmes, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Mais allons plus loin encore avec ce même verset-là. Dieu nous enlève tout appui et toute ressource parce qu'il veut nous pousser dans ses bras, lui qui est notre appui. Il veut nous faire bénéficier de sa grâce, qui est la ressource inépuisable de Dieu. Donc, Dieu veut nous couper de nos appuis et nos ressources pour nous bénir, nous combler de son appui et de ses ressources. Et là, ça donne un sens à l'idée de répondre à son habileté. Dieu est le seul appui. Dieu a toutes les ressources infinies dans l'univers. Est-ce que tu réponds à ça? En t'humiliant, en l'acceptant, en disant merci Seigneur, ou tu veux essayer encore? Il te reste-tu encore assez de jus dans ta tank, de gaz pour essayer? Ou justement, Dieu a tout enlevé, c'est une grâce. Quand Dieu il dit, tu es à sec, tu n'as plus de gaz dans ta tank, veux-tu puiser dans mon réservoir infini, moi la source d'eau vive? C'est une grâce quand Dieu nous amène là, c'est beau! C'est bon, c'est salutaire. Et donc, c'est ça notre responsabilité ce matin, de répondre à son habileté. C'est ta responsabilité pour le salut de ton âme. Parce que Christ est le seul qui a l'habileté de sauver. La Bible nous dit qu'il y a de salut en aucun autre. Et que Dieu, en Jésus-Christ, nous a donné le moyen, le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre. Et ça nous dit aussi que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Donc la question est simple. Quelle habileté est l'objet de la confiance, de ta confiance? Ton habileté pour te sauver ou celle de Dieu? La différence est une différence éternelle, vitale. Où est ta confiance pour le salut de ton âme ce matin? Le seul qui a l'habileté de te sauver, c'est Jésus-Christ. Que tu puisses mettre ta confiance en lui, en sa personne et en son œuvre. Enfant de Dieu, voici mon appel. Ta responsabilité, ce n'est pas d'essayer plus fort, de plaire à Dieu, mais de répondre à son habileté. Lui qui veut accomplir sa puissance dans ta faiblesse. Résiste pas à la faiblesse dans ta vie. C'est une grâce que Dieu te fait pour que sa puissance puisse s'accomplir. Pourquoi on résiste quand on est faible alors que c'est Dieu qui nous amène à ce point de faiblesse? Au lieu de résister, cédons. Répondons à son habileté. Il nous met en faiblesse, en situation de faiblesse, pour que sa force puisse s'accomplir. Sais-tu, si tu es un enfant de Dieu ici, là, Dieu t'aime tellement, là, qui te fait la grâce de te dépouiller de tout appui et de toute ressource. Que Dieu l'écrive sur notre cœur. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est un privilège, et que ce soit pour nous un sujet de joie. Qu'on s'en réjouisse, que Dieu nous donne le privilège de pouvoir expérimenter ce qui est exprimé dans les psaumes 42 et 50. D'abord 42:6, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que ça paraît comme si Dieu était digne de confiance? Absolument. Écoutez maintenant psaume 55. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Donc invoquons-le ensemble. Ce Dieu qui nous conserve sa bonté, qui nous aime d'un amour éternel, c'est pour ça qu'il nous conserve sa bonté. Ce Dieu qui nous dit, invoque-moi, je vais te répondre, je vais te montrer des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci Seigneur, tu nous as donné la lumière de ta personne, de ton œuvre sur nos vies. On veut répondre, Seigneur, à ton appel ce matin. Tu n'es pas venu ici pour nous divertir, pour nous entretenir, pour qu'on passe un dimanche matin à faire quelque chose de religieux. Tu es venu nous rencontrer, tu es venu nous restaurer, tu es venu sauver ceux qui sont perdus, tu es venu fortifier, transformer ton peuple à l'image de Christ. Seigneur, tu as commencé cette bonne œuvre dans tes enfants et tu veux l'amener parfaite jusqu'au jour de Christ. Seigneur, je prie que la réponse de ton peuple ici rassemblé soit toute simple. Une simple confiance en ton habileté. Merci que tu ne nous demandes pas de retrousser nos manches et qu'il faut qu'on s'épuise jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est toi-même qui nous enlève tout appui et toute ressource pour qu'on découvre l'infinie richesse de ta grâce. Qu'on découvre que tu as un appui immanquable qui ne manque jamais et que les ressources de ta grâce sont infinies. Oh, béni sois-tu, notre Dieu. Merci. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.